c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Après le Sénégal, le Pérou, le Burkina Faso ou l'Inde, le fonds de finance carbone Livelihoods a lancé la semaine dernière son deuxième projet à grande échelle au Kenya. Ce fonds, créé en 2011 par 10 multinationales qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, investit dans des projets d'agriculture durable en s'appuyant sur des dynamiques locales déjà en place. Son objectif est de les faire changer d'échelle. Dans le comté de Trans-Nzoia, au pied du mont Elgon, qui marque la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, 30 000 fermiers devraient améliorer leurs conditions de vie en apprenant des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Laure Broulard est allée à leur rencontre.
J'arrive dans la ferme de Margaret Muchanga. C'est là qu'elle vit avec son mari et ses 5 enfants. Elle fait partie des 6000 fermiers qui ont intégré cette année le projet Livelihoods pour le mont Elgon. Et depuis quelques mois, elle a mis en place sur ses terres plusieurs méthodes d'agriculture durable. Et c'est ce qu'elle va nous montrer en nous faisant visiter sa parcelle. Alors il y a 2 petits bâtiments bas, c'est vraiment très vert autour de nous. Jumbo, Margaret.
Oh, Sana.
Thank you. Où est-ce que nous sommes, ici?
This is my woodland.
Ça, c'est mon jardin boisé. J'ai voulu en faire une pépinière, donc c'est ici que j'ai commencé à travailler.
So, this is the place I've been working on. Some of the trees that I had in tree nursery.
Après les pluies, je vais transplanter plusieurs des arbres qui sont ici. Mais j'en ai déjà transplanté beaucoup, qui serviront pour le fourrage ou pour les feux de bois. Mais on les verra au fur et à mesure.
Alors là, devant nous, il y a un tas de plantes et de feuilles mortes. À quoi ça sert?
This is, I'm preparing for my manure from the available resources.
Ça, c'est la préparation pour mon fumier. Je le fais à partir des ressources de mon terrain, comme des feuilles, car j'ai beaucoup d'arbres. Donc je balaye tous les jours. Je rassemble les feuilles ici, avant de les mélanger avec les excréments de mes vaches. Avec, je ferai mon compost, qui sera un fertilisant pour mes plants de bananes, de café et de maïs de l'année prochaine.
Banana stems in my coffee stems and also using for planting maize and vegetables.
Et là, nous arrivons à l'étable.
Donc c'est ici l'endroit où mes vaches viennent se reposer après avoir brouté. Nous pouvons entrer et voir comment ça se présente.
Initially, it has been the way it is, as you can see, it's very uncomfortable for the cow to sleep.
À l'origine, c'était comme ça. Et vous le voyez, c'était pas très confortable pour mes vaches. Mais j'ai amélioré ce côté-ci. Là, c'est une nouvelle structure. Ça sera un espace de stabulation permanente. Avec l'ancien, mes vaches sortaient pour aller brouter et c'était mauvais pour elles, car elles pouvaient attraper des maladies. Elles ne se nourrissaient pas bien et quand elles rentraient, vous voyez, il y a ces trous dans le sol, donc elles ne dormaient pas bien. On m'a dit que ça avait des conséquences sur la traite et que cela réduisait la quantité de lait. Mais dans la nouvelle structure, ça sera de la stabulation permanente, c'est-à-dire que les vaches ne sortiront pas pour brouter. Elles se nourriront ici et je les trairai ici également. Et elles se reposeront là, derrière.
On continue notre parcours. Ah, il faut faire attention à ne pas marcher sur les plantes parce qu'il y a vraiment des légumes qui poussent absolument partout. Alors, on longe la plantation de café et on arrive à l'ombre.
A livelihood project has advised me also to have a banana plantation.
Donc ici, le projet Livelihood m'a également conseillé d'avoir une plantation de bananiers, car j'ai une grande ferme et je ne savais pas comment l'utiliser. Et à l'intérieur de cette plantation, il ne voulait pas que la terre soit gâchée. Donc comme vous le voyez, j'ai planté d'autres légumes. J'ai vraiment l'impression d'utiliser ma terre efficacement.
So I find that I'm really using my shamba at the right time for the right purpose.
Oui, donc effectivement, en face de nous, il y a des bananiers tous les 2 ou 3 mètres. Et autour, en fait, pour que la terre ne soit pas gâchée, c'est ce que Margaret nous expliquait, on a plein d'autres plantes qui sont absolument partout. Donc vraiment, chaque centimètre de terre est utilisé. Et ils sont dans des trous. Why are they in holes like this?
So the holes.
Pourquoi les trous?
As I was taught, this is like a plate.
Donc les trous, on me l'a appris, sont comme des assiettes pour les plantes où l'on met de la nourriture.
So
c'est là que je mets du fumier. Et quand il pleut, cela peut également recueillir l'eau.
You pour inside. When also it rains, that is where it can hold water.
Mm-hmm. Et est-ce que vous reconnaissez ce légume?
C'est un cucumber.
Ah, des concombres.
Des concombres.
Ok. Donc voilà, entre les bananiers, il y a des concombres, il y a des tomates.
You can eat it.
Ça se mange cru.
It also is used for.
C'est très bon dans les salades.
Mm-hmm.
Ah, donc là, il y a un très beau concombre quand même entre eux. C'est pour moi? Oh, thank you so much.
Avec les bénéfices générés par ces nouvelles cultures, Margaret Muchanga espère pouvoir acheter une nouvelle vache laitière grâce au service d'insémination artificielle mis à disposition dans le cadre du programme. Augmenter la production laitière et par là améliorer les conditions de vie des fermiers de la région, c'est un des objectifs du projet Livelihoods pour le Mont Elgon, un projet lancé officiellement la semaine dernière à Kitalé, le chef-lieu du comté de Transzoya.
Donc nous sommes ici à Kitalé pour le lancement du projet Livelihood pour le Mont Elgon. Donc vous êtes Bernard Giraud, un des cofondateurs de Livelihoods, un fonds d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est ce projet Livelihoods au Mont Elgon?
Oh, écoutez, c'est très simple. Il y a 30 000 fermiers qui vivent au pied de cette grande montagne qu'est le Mont Elgon. L'objectif du projet, c'est d'aider ces 30 000 fermiers à produire davantage et mieux pour améliorer leurs revenus. Aujourd'hui, ces fermiers travaillent des très petites exploitations, en général un hectare en moyenne, et ils sont confrontés à pas mal de difficultés. Besoin d'eau en saison sèche, érosion, problèmes de fertilité. Et donc l'objectif du projet, c'est d'aider ces fermiers à mettre en œuvre des pratiques très simples qui leur permettent, en plantant des arbres, en creusant un certain nombre de canaux d'irrigation, en fertilisant les sols avec des systèmes de compost, d'améliorer rapidement leur rentabilité. L'objectif aussi, c'est de permettre à ces fermiers de mieux accéder au marché, en particulier au marché du lait, qui est important au Kenya. Et donc le projet vise à accroître très fortement la capacité de production de ces petits fermiers. Donc finalement, c'est de jouer sur plusieurs leviers, à la fois l'élevage et à la fois les cultures, pour accroître rapidement la production de cette zone. Ce projet est fait en partenariat avec une ONG qui s'appelle VI Agroforesterie, qui est d'origine suédoise, mais qui travaille au Kenya depuis plus de 30 ans.
Oui, ça, donc en fait, vous vous basez sur des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves.
Oui, absolument. Ces méthodes ont déjà été expérimentées à grande échelle, déjà au Kenya, par cette ONG. Donc ce que nous faisons avec cette ONG, c'est de travailler en partenariat avec eux et avec un industriel qui s'appelle Brookside pour mettre ces pratiques à disposition des fermiers du Mont Elgon.
Et donc finalement, des entreprises investissent de l'argent dans votre fonds. Vous, vous donnez un premier investissement pour le projet à cette ONG. Comment est-ce que vous avez un retour d'investissement pour vous et pour les entreprises qui investissent dans le fonds?
Ce projet va permettre de stocker à peu près 500 000 tonnes de carbone dans le sol au cours des 10 prochaines années. Et par ailleurs, l'efficacité de production laitière est également intéressante sur le plan du carbone, puisqu'avec des vaches beaucoup plus efficientes, on peut produire beaucoup plus de lait avec moins d'émissions de méthane. Donc au total, nous avons des entreprises qui ont investi dans le fonds Livelihoods. Le fonds Livelihoods investit dans le projet et l'argent revient pour partie par les crédits carbone ou par les paiements sur le lait qui sont faits par la société Brookside. Alors, en ce qui concerne le carbone, nous distribuons ces crédits carbone aux entreprises qui sont membres de notre fonds. Elles utilisent ces crédits pour compenser certaines de leurs émissions. Toutes ces entreprises sont engagées dans de la réduction. Par exemple, Danone est engagée dans un gros programme de réduction, mais c'est vrai aussi des autres compagnies qui sont membres de notre fonds, Schneider Electric, Hermès et d'autres. Mais ces sociétés, elles ne peuvent pas arriver à la neutralité parce qu'elles ont des activités qui, de toute façon, émettent, même si elles réduisent. Donc elles compensent une partie de ces émissions restantes avec les crédits carbone. Et ces crédits carbone ont un impact social et un impact environnemental. Il ne s'agit pas seulement de crédits carbone. Lorsque les crédits carbone arrivent, ils arrivent parce que des milliers de fermiers ont amélioré leur production et amélioré leurs revenus. Donc ces crédits carbone, nous les faisons vérifier, nous les faisons certifier, et une fois qu'ils sont enregistrés dans des standards internationaux, nous les distribuons aux entreprises membres à proportion de l'argent qu'elles ont investi dans notre fonds.
Comment est-ce qu'on calcule en fait tout ça à partir du terrain ?
Ben, nous nous appuyons sur des méthodologies de mesure du carbone qui ont été approuvées au niveau international. En ce qui concerne le sol, c'est une méthodologie que nous trouvons extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet de mesurer le carbone qui est stocké dans le sol à travers les pratiques des fermiers. Donc nous savons qu'un fermier à qui l'ONG propose de mettre en œuvre, mettons, 15 pratiques de travail du sol, de plantation d'arbres, eh bien, si le fermier fait ces pratiques-là, telle ou telle pratique, nous savons que ces pratiques-là ont un impact carbone de tel niveau. Tout ça a été évidemment travaillé pendant des années avec des scientifiques qui ont pu mesurer la corrélation entre les pratiques et le carbone. Et au niveau du projet, toutes ces informations sont consolidées et c'est ce qui va nous permettre de mesurer l'impact carbone.
L'ONG suédoise VI Agroforestry, qui est chargée d'implanter et de suivre le projet sur le terrain, a ses bureaux à côté du musée de Kitale. C'est là que je rencontre Jane Joseph dans un grand parc luxuriant avec quelques singes qui se promènent autour de nous.
My name is Jane Joseph. I work as a field coordinator in livelihood project.
Mon nom est Jane Joseph. Je suis coordinatrice de terrain pour le projet Livelihoods pour le Mont Elgon. J'apprends aux fermiers des pratiques durables d'aménagement de leurs terres, ce qu'on appelle SALM. Cela comprend de l'agriculture bio-intensive, de l'agroforesterie et de la production laitière. Dans le cadre de la production laitière, nous formons les fermiers à la production de fourrage et à sa conservation, ainsi qu'à la gestion globale de l'exploitation.
Management. Et plus simplement, par exemple, qu'est-ce que vous leur demandez de planter ou qu'est-ce que vous leur demandez de changer ?
Pour ce qui est de l'agroforesterie, nous promouvons plusieurs espèces, dont les arbustes appelés calandra et cesbania. Nous encourageons les fermiers à les planter car ils nourrissent le sol. Ce sont également des légumineux, donc ils retiennent l'azote dans le sol. Ils sont aussi bons pour la production de fourrage car ils ont des valeurs nutritives importantes. Leur taux de protéines est aux alentours de 14%.
Vous voulez aussi augmenter la productivité des vaches ? En termes de lait, comment est-ce que ça fonctionne ?
To raise the productivity of the cows, number one, it is very important for us to have the right breeds.
Pour augmenter la productivité des vaches, nous considérons qu'il est d'abord très important d'avoir les bonnes espèces. Car si vous n'avez pas la bonne espèce, vous pouvez la nourrir autant que vous voulez, vous ne serez pas rentable en termes de production laitière. La deuxième chose, c'est l'habitat. Avant, les fermiers laissaient leurs animaux en libre pâturage. Ils broutaient n'importe où et ils contractaient toutes sortes de maladies. Mais maintenant, nous poussons les fermiers à construire des abris afin que les vaches ne sortent plus pour manger et qu'elles soient protégées. Et donc, l'énergie dépensée à aller chercher la nourriture est convertie en lait.
Et
ce projet, il est censé réduire les émissions de carbone.
Quand on parle de pratiques durables d'aménagement des terres, cela inclut aussi des cultures de couverture. Ces plantes contiennent de la biomasse qui permet de stocker le carbone présent dans l'air, ce qui rend l'air plus propre et réduit les émissions.
Et avant, les fermiers, en fait, ils avaient des manières de faire qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi ?
Before farmers were practicing practices like, for example, monocropping, they were overgrazing.
Avant, les paysans pratiquaient la monoculture, le surpâturage, et ils ne labouraient pas de la bonne manière et ne pratiquaient pas l'agronomie, ce qui entraînait l'érosion du sol. Aussi, ils ne plantaient pas d'arbres. Pourtant, les arbres sont importants car ils structurent le sol, et c'est lorsque le sol n'est pas retenu que l'érosion intervient.
And when the soil is not held, then that means it is easy for soil erosion to take place.
Et là maintenant, j'ai vu aussi vous les entraînez à faire de l'engrais naturel avec des composts.
We are encouraging farmers to plan to do a lot of composting because in compost we have a lot of micro and
nous encourageons les fermiers à faire des composts car dans le compost, il y a beaucoup de micro-organismes et de micronutriments et c'est un moyen de construire nos sols. Le compost reste longtemps dans le sol et c'est utile par exemple quand nous avons une saison des pluies courte car le compost agit alors comme une éponge. Il libère l'eau lentement. Cela permet de récolter même pendant la saison sèche.
La région de Kitale et du Mont Elgon, c'est aussi votre région. Vous pensez que c'est très important de faire ça aujourd'hui ?
It is very important for us to do this
Il est important pour nous aujourd'hui de mettre en place ces pratiques durables d'aménagement des terres, parce que notre sol est épuisé. Il a longtemps été abîmé. Il est très acide à cause de l'usage continuel d'engrais chimiques. Mais avec nos méthodes, le compost, la diversification et des cultures de couverture, nous reconstruisons notre sol et le ramenons à la vie. Car c'est bien connu, quand vous nourrissez le sol vous nourrit. Mais si vous ne nourrissez pas le sol, il ne vous nourrira pas. Cela va dans les deux sens.
Alors nous sommes maintenant à Kiminini, c'est une petite agglomération, un petit marché au sud-ouest de Kitale. On voit le mont Elgon à l'horizon, il y a plusieurs petites échoppes, des grandes bâches avec de la nourriture pour les poules par terre. Et je suis devant la coopérative de Kiminini, donc c'est un petit bâtiment avec un toit de tôle, une petite porte bleu clair, il y a pas mal de mouches qui obscurcissent la porte. Et je vais rencontrer Omae Barnabas, qui est le secrétaire de la coopérative, donc c'est celui qui est en charge du lieu. Et il est aussi médiateur de la communauté. Hello, Omae.
Hello.
How are you?
I'm fine.
Shall we go in?
Yes,
allons
okay.
À l'intérieur?
Yeah,
ok.
Fine.
Alors, on va rentrer. Alors, nous entrons, il y a une petite pièce. À ma gauche, il y a un large frigidaire. Pourquoi ce frigidaire et qu'est-ce qu'on fait dedans?
Ce frigidaire sert à stocker le lait et à réduire sa température jusqu'à 4 degrés, afin d'éviter la contamination.
Donc, tous les matins, les fermiers de la région apportent leur lait ici.
Oui, les fermiers des alentours amènent leur lait ici. On le teste, puis on le stocke dans le réfrigérateur. Nous recevons environ 540 litres de lait par jour.
Qu'est-ce que vous faites après avec ?
Et après, l'entreprise Brookside vient collecter le lait ici.
Every day, tous les jours.
Tous les jours.
Et après, Brookside va le commercialiser. Et comment est-ce que finalement l'argent revient aux fermiers ?
Une fois que le lait a été livré, Brookside paye à la fin du mois. Il verse l'argent sur le compte de la coopérative et la coopérative à son tour paye les fermiers. Ici, ils sont 344 fermiers qui sont organisés en 12 groupes. Parce que Kiminini, là d'où je vous parle, est un lieu central. Les groupes, eux, sont localisés dans des zones diverses, parfois loin d'ici. Donc c'est à travers des groupes que nous atteignons ces fermiers. Ce type d'organisation est bénéfique, car elle lie le fermier à l'industrie de la transformation. Dans notre cas, il s'agit de l'entreprise Brookside. Mais à travers la coopérative, nous offrons également des services. Nous produisons du fourrage que nous récoltons ici et vendons aux fermiers à prix réduit. Nous avons aussi un kit d'insémination artificielle. Nous achetons du liquide séminal ici à Kitale et nous faisons l'insémination à prix réduit également. C'est aussi à travers ces coopératives que nous formons les fermiers, grâce notamment aux médiateurs de la communauté, afin qu'ils mettent en place des pratiques durables d'aménagement de leurs terres.
Donc c'est une coopérative, est-ce que ça veut dire que tous les fermiers participent activement à la structure?
Yes, farmers are registered directly as members of the cooperative.
Oui, les fermiers sont inscrits en tant que membres de la coopérative. Ils ont également des parts et ils élisent des représentants. J'ai moi-même été élu. Je viens aussi d'un de ces petits groupes, mais je suis aujourd'hui secrétaire de la coopérative.
I serve as the secretary of the cooperative.
Quel est votre meilleur souvenir dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a le plus touché?
En tant que médiateur de la communauté? Vous voyez, quand vous servez votre communauté, pour nous, vous servez Dieu. Je sens que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a amené ici.
Après avoir été testé dans les 15 coopératives qui font partie du projet, le lait est transporté jusqu'à la petite usine de Brookside, à Kitale. Brookside, c'est le leader kényan de l'industrie laitière. L'entreprise s'est engagée à acheter le lait produit dans le cadre du projet Livelihoods sur une période de 10 ans. Pour les fermiers, c'est l'assurance d'écouler leur production, mais c'est aussi une aubaine pour Brookside, qui peine à faire face à la demande en produits laitiers pendant la saison sèche. Alors je me trouve maintenant dans l'usine, la petite usine de récolte du lait de Brookside de Kitalé. Je me trouve avec le manager régional de Brookside, Amos Moissy. Hello, Amos Moissy.
Hello.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer où nous sommes et qu'est-ce que l'on fait ici?
This is a milk collection.
Nous sommes dans le centre de récolte et de mixage du lait de Brookside Dairy Limited à Kitalé. Nous récoltons le lait de la région, y compris dans les zones de Bungoma et de Trans-Nzoia, qui font partie du projet Livelihoods pour le mont Elgon. Ici, le lait est mélangé, réfrigéré, avant d'être chargé dans un camion-citerne de 3 tonnes et amené à Ruiru, où il sera transformé.
Et quels sont les problèmes en termes d'approvisionnement en lait que vous rencontrez dans la région ?
The main challenge is getting enough volumes.
Notre principal défi est d'obtenir une quantité de lait assez importante afin qu'il soit mixé et refroidi de manière rentable, car la production laitière ici est très basse. Nous ne collectons que de petites quantités de lait, et ce, dans des zones très étendues, ce qui rend la conservation difficile. Et souvent, nous sommes forcés de faire de longues distances pour aller chercher de toutes petites quantités de lait.
Parce que vous travaillez principalement avec des petits exploitants ?
Oui, c'est parce que nous travaillons avec de petits exploitants qui ont de mauvaises méthodes d'élevage.
Qu'est-ce que vous espérez maintenant avec votre partenariat avec Livelihoods ?
Nous attendons que les fermiers soient formés à l'élevage et nous prévoyons une augmentation de la production. Elle devrait passer de 5 litres de lait par vache et par jour aujourd'hui à 10 litres par vache et par jour. Donc avec les 30 000 fermiers qui devraient participer au projet et parmi eux les 15 000 faisant de la production laitière, nous espérons qu'il y aura assez de lait pour que nous puissions le transformer de manière rentable.
Et les moments où c'est un peu difficile pour vous, c'est pendant la saison sèche, c'est ça?
Oui, la saisonnalité de la production est un autre problème, car les fermiers dépendent encore des pluies. S'il ne pleut pas, il n'y a pas d'herbe, donc pas de pâturage, donc pas de lait. En général, nous recevons 70 000 litres de lait par jour, mais pendant la saison sèche, cela chute à environ 35 000 ou 40 000 litres par jour. Nous prévoyons de traiter 200 000 litres par jour, car nous devrions recevoir environ 135 000 litres provenant des fermes du projet Livelihoods chaque jour. Donc nous devrions en être à 200 000 litres par jour dans les 5 ans.
L'entreprise Brookside paiera des dividendes sur l'augmentation de la production laitière au fonds Livelihoods, Danone, Hermès ou encore Schneider Electric, qui ont investi plusieurs millions d'euros dans le fonds, attendent leur retour sur investissement en crédit carbone, des crédits qu'elles garderont pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre ou qu'elles revendront sur le marché mondial du carbone. Gilles Vermeau-Desroches, en charge du développement durable, du climat et de l'accès à l'énergie chez Schneider Electric.
Livelihoods, c'est une belle histoire aux confins de deux préoccupations de Schneider Electric. La première préoccupation, c'est l'accès à l'énergie des populations qui ne l'ont pas, plus d'1,4 milliard d'habitants de la planète aujourd'hui. Et puis la deuxième préoccupation de Schneider, c'est la réduction des émissions de carbone par la réduction de la consommation énergétique au niveau mondial, y compris dans les pays matures. Et pour y arriver, il faut les engagements de tout le monde. Par exemple, les grandes entreprises qui veulent demain rejoindre leur neutralité. L'offre de Schneider pourra être, on vous aide à faire de l'efficacité énergétique, consommer moins, on vous aide à intégrer des énergies renouvelables à votre consommation, consommer mieux, et puis le reste d'émissions carbone qui va rester, avec celles qu'on va obtenir dans le cadre de la Livelihoods, on peut aussi vous les céder, et efficacité énergétique, énergie renouvelable, offset des émissions qui restent, les entreprises deviennent neutres. Voilà un axe stratégique de la position de Schneider Electric au niveau mondial. Schneider est aux côtés de Danone le premier investisseur en temps mais aussi en niveau. On a investi 5 millions d'euros pour comprendre ces projets, pour être en proximité avec les communautés et puis pour progressivement rentrer dans une dynamique carbone, de crédit volontaire de carbone et voir comment dans le champ de l'économie, ceux-ci ont une place pour permettre à rester en dessous des 2 degrés. Schneider Electric a signé l'engagement Science Based Target, qui est une entreprise qui s'engage à tout faire pour que ses propres politiques permettent de rester en dessous de 2 degrés, eh bien, une démarche comme celle de la Vieille Houle y concourt.
L'adoption de méthodes d'agriculture durable à grande échelle devrait également préserver l'écosystème du lac Victoria, dont le mont Elgon est un important réservoir d'eau. En attendant, les fermières de la région, comme Christine Moussassia, assurent trouver fierté et indépendance dans ces nouveaux savoir-faire.
Yes, I'm very bright. I know how to feed the animal.
Je suis très fière. Je sais comment nourrir les animaux. Je sais comment améliorer leur production. Je sais faire du fourrage. Je sais aussi comment bien planter les légumes dans ma ferme.
In a nice way, nicely way.
Combien de vaches est-ce que vous avez?
I have 6.
Est-ce qu'elles ont des noms?
Yes, Mekesa, Naliaka. Jane and Napola.
Oui, elles ont tout un nom.
Ok.
Vous trouverez des informations complémentaires sur ce programme et les autres projets du Fonds sur le site livelywoods.eu/fr. Ce reportage de Laure Boulard a été réalisé par Fabien Mugneret. Demain, nous verrons avec nos invités s'il est possible d'enrayer le trafic des espèces d'animaux et de plantes sauvages, alors que la conférence de la CITES, la convention internationale en charge de la régulation de ce commerce, vient de se terminer à Johannesburg en Afrique du Sud. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.
C'est pas du vent sur RFI. International.